Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview. Émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Olivier de Sépibus. Bonjour.
Bonjour.
Olivier de Sépibus, tu es ici pour nous parler de l'apithérapie et dans le cadre d'une découverte, donc par le biais de plusieurs stages que tu vas proposer pendant le printemps. Et tu peux peut-être déjà nous préciser ce qu'est l'apithérapie.
Alors l'apithérapie, ça rentre dans le cadre de mon travail, des compétences que j'ai sur l'apiculture. Et ça fait longtemps que je suis curieux des produits de la ruche. Et je fais une formation actuellement à l'AFA, l'Association francophone d'apithérapie. Et donc l'apithérapie, c'est, bah, comme le mot indique bien, c'est comment se guérir avec les produits de la ruche. Donc on en connaît certains et moins d'autres. Donc on connaît bien le miel, la propolis, le pollen, la gelée royale et après la cire qui rentre dans la composition de pas mal de composants style savon, baume et autres onguents. Et le venin d'abeille aussi, qui rentre aussi. Et dernièrement, il y a aussi une application de l'air de la ruche ou sur l'asthme, qui est très concluante. Ouais.
Alors, l'apithérapie, c'est une science que tu as découvert récemment ?
Alors, disons que c'est une science, je ne sais pas si c'est une... Enfin, c'est rentré dans le domaine scientifique, on va dire. Mais c'est utilisé depuis, on va dire, la nuit des temps, certainement, et on a des premières traces en Égypte ancienne. Et c'est d'ailleurs comme ça que les Égyptiens embaumaient leur corps avec des languettes trempées dans du miel et de la propolis. Parce que la propolis, c'est un antibactérien fongique assez incroyable. Et donc, au contact de la propolis, les chairs, elles ne pourrissent pas. Elle sèche. Et donc, c'était de cette manière-là que les Égyptiens, pour embaumer les corps, vidaient les viscères du corps, quoi. Puis après cela, ils embaumaient, ils recouvraient tout le corps de propolis, d'herbes certainement, hein, mais principalement de propolis et de miel. Et ainsi, les corps séchaient, mais ne pourrissaient pas et se momifiaient. De cette manière-là. Donc voilà, ça fait très longtemps après chez les Grecs, etc. Il y a une très vieille tradition d'utilisation des produits de la ruche et partout dans le monde. Et pendant extrêmement longtemps, le miel était le seul sucre utilisé par les populations européennes. On ne connaissait que ça. Après, il y a eu donc la colonisation et la canne à sucre qui s'est importée, mais jusqu'à très très récemment, dans les campagnes françaises, on mangeait rarement du sucre de cette teneur-là, sauf par le miel.
Donc le miel était forcément très présent dans notre société, hein, comme tu sembles le dire. Cela veut dire aussi qu'il y avait une culture et du miel qui était, pour ainsi dire, devenue ordinaire.
Alors, il y avait une culture, effectivement, il y avait une culture du miel partout, on va dire, là, mes études et ma recherche s'est portée particulièrement en France, mais dans toute l'Europe paysanne, il y avait des ruches dans toutes les fermes. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment dans l'Europe, sur la façade est de l'Europe, donc tous les pays... comme l'Ukraine, la Roumanie, la Hongrie, tous ces pays-là, la Pologne et la Russie, évidemment, ont gardé une très forte tradition d'apithérapie, toujours actuellement, même utilisée et surtout utilisée dans les hôpitaux. Et donc, on utilise très fréquemment le venin d'abeille pour aider à la cicatrisation. La propolis aussi, et le miel pour aider aussi à la cicatrisation. Et donc, nous, en France, on a perdu l'utilisation de ces produits après la Première Guerre mondiale, alors qu'elle était extrêmement présente dans toutes les campagnes françaises, avec la présence de ces ruches. Et d'ailleurs, c'est étonnant, hein, parce que les recherches font que il y a des ruchers un peu cachés un peu de partout en France, dans des endroits que l'on soupçonne même pas. Comme par exemple, on m'a dit, et c'est vérifié, que sur les pigeonniers, donc ces tours où on faisait l'élevage des pigeons, dans les pigeonniers, souvent, à la base du pigeonnier, il y avait une trappe, une ouverture, et il y avait souvent des ruchers à cet endroit-là. Et après, il y avait des ruches qui étaient incrustées dans les fermes, des ruchers dont la ruche était incrustée dans la ferme et l'extérieur donnait sur... Évidemment, la ruche donnait sur l'extérieur de la ferme, enfin. Et ça se trouve très fréquemment, toujours au Maroc. Voilà, donc il y avait vraiment une proximité très forte entre les populations paysannes et les abeilles. Et justement, l'aire de butinage des abeilles était vraiment très, était le même avec l'aire de culture des paysans. Et donc, jusqu'à très récemment, les deux espaces, celui de l'abeille et celui de l'homme, n'étaient absolument pas en concurrence. Ils étaient, et complémentaires et étaient dans une même symbiose, on va dire.
Tu dis une déperdition de la fabrication du miel en France juste après la Première Guerre mondiale. Ça s'est déroulé de quelle manière? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, que le sucre ait supplanté le miel? Et est-ce que tu t'es intéressé aux enjeux de l'époque?
Alors là, j'ai pas fait de recherche spécifique, mais bon, il me vient à l'esprit des choses qui sont assez communes. J'imagine que c'est une histoire de coût. Actuellement sur le marché, un kilo de saccharose, ça doit coûter, je ne sais pas, 2,50€, 3€ quand c'est en bio, et puis peut-être 1€ quand c'est en conventionnel. Alors qu'un kilo de miel, on est entre 13 et 20€ le kilo, quoi, selon la provenance, et voilà. Un miel local, quoi. Donc, voilà. Et puis, à l'époque, effectivement, les capacités de récolte du miel et de fabrication du miel des abeilles n'ont rien à voir avec celle de la fabrication du saccharose. Mais ensuite, ce qui s'est passé par rapport à l'apithérapie, toute la connaissance qu'on avait de ces produits, que l'on pouvait avoir une connaissance paysanne, empirique, sur l'utilisation de ces produits pour la cicatrisation avec le miel, comme antibiotique pour la propolis, pour le venin d'abeille, pour l'arthrose, l'arthrite, tous les problèmes articulaires. Toutes ces choses-là étaient bien connues de nos ancêtres. Bon, ce qui s'est passé en France, c'est très, très commun et très connu. C'est comment la médecine scientifique a écarté ces médecines dites empiristes ou traditionnelles. Alors que dans notre pays européen, ça n'a pas été le cas forcément de façon aussi violente que chez nous. Et aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un médecin, professeur Descote, à l'hôpital dans les années 50, à l'hôpital de Limoges ou dans les années 60, n'arrivait pas à cicatriser des plaies suite à des opérations. Enfin, c'était très compliqué, ou à des accidents. Et donc, il avait entendu parler de la cicatrisation au miel et il a appliqué des pansements au miel et ça a cicatrisé. Et aujourd'hui, les vétérinaires certains médecins en milieu hospitalier utilisent maintenant le miel pour cicatriser. Ça cicatrise très, très bien. Et tous les problèmes de cicatrisation que l'on peut trouver, qu'ils trouvent apparemment, ça se résout avec le miel. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour ces produits en milieu médical suivi est de plus en plus grand. il s'agit, et ce qui est d'intéressant, c'est que ce sont des médecins de la science, enfin de la médecine conventionnelle, scientifique, qui s'emparent de ces produits-là pour en faire la promotion et pour eux-mêmes en milieu hospitalier ou alors pour l'utilisation du grand public. Et moi, ce que je fais, les stages que je propose, je ne suis pas thérapeute, donc je n'ai ni la compétence ni l'envie de vouloir soigner avec ces produits-là. Par contre, j'estime qu'il y a un manque d'information vraiment criant de ces produits qui sont d'une grande valeur et que je vais tenter de porter la connaissance à travers ces stages.
La découverte de l'apithérapie, comme tu proposes, c'est une déclinaison de ce que tu avais commencé déjà avec le goût du paysage, il y a presque 10 ans.
Oui, voilà, c'est vraiment une continuité du travail. C'est-à-dire que le goût du paysage, c'était l'activité de l'abeille en produisant ce miel à partir des fleurs qu'il y a dans le paysage et l'activité, on va dire, imaginaire que l'on peut avoir dans un paysage, c'est-à-dire le travail artistique des artistes travaillent sur le paysage en photographiant, en dessinant, en parcourant. Enfin, voilà, il y a plein de déclinaisons artistiques que l'on peut avoir dans le paysage. Et finalement, les abeilles, lorsqu'elles font du miel, que moi j'appelle de paysage, puisque c'est un miel qui est... Les abeilles restent plusieurs mois au même endroit. Et l'appropriation symbolique des artistes peuvent avoir, et bien je les mettais ensemble. Et finalement, ça faisait comme une espèce d'appropriation et à la fois par un animal qui nous donne l'information et le goût du paysage, et à la fois d'un point de vue sensible par celle des humains. Et maintenant, cette exploration que je mène depuis pratiquement 10 ans fait qu'il y a une espèce de forme de cohérence sur la façon dont s'approprient nos territoires, qui sont aussi des lieux habités par des humains et des non-humains, évidemment, par du vivant animal, du vivant végétal, qu'il y a des relations, évidemment, entre tous ces êtres vivants, humains, animaux, végétaux, et puis jusqu'aux très petits microbes, bactériologiques, etc. Et que tout ça n'est pas forcément ni en concurrence, ni dans des rapports de prédation violente. Et qu'il y a aussi des rapports de symbiose, qu'il y a aussi des rapports d'équilibre, qu'il y a aussi tout ça qui existe. Et que l'abeille, la relation que l'abeille entretient avec son environnement est une relation symbiotique, parce que d'une certaine manière, elle pollinise, donc elle aide elle apporte donc ce service, comme on dit en sciences écologiques, ce service de pollinisation pour les plantes, mais en retour, elles utilisent toutes les possibilités qu'il y a dans l'environnement, dans leur environnement, pour produire un certain nombre de substances qui vont les aider à combattre les multiples pathogènes auxquels elles doivent faire face. Et comme par hasard, les pathogènes et les solutions qu'elles trouvent, les substances qu'elles produisent, qu'elles créent, qu'elles élaborent, qui permettent de combattre ces pathogènes, comme par hasard, ces substances... là-dessus, il y a aussi des choses intéressantes que l'on peut prendre pour nous. Et donc, c'est les substances propolis, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Mais les autres, pollen, gelée royale et miel, évidemment, et même venin d'abeille, sont des substances extrêmement puissantes qui permettent de combattre la plupart des pathogènes auxquels on est confronté tous les jours.
On va y aller plus en profondeur hein, durant l'émission. Tu as eu donc une intervention que tu as faite à l'écologie au quotidien en janvier, et là où tu présentais justement l'apithérapie. Est-ce que ça a été pour toi concluant? Est-ce qu'un public a découvert cette technique, ou alors est-ce que ça les motive, pour ceux qui connaissaient déjà, à continuer?
Oui, en général, il y a une sensibilité à la question soit de l'abeille, soit il y a déjà, on va dire, une pratique, quelque part, de l'apiculture ou un intérêt. Il y avait un papa qui était apiculteur. Enfin bon, il y a déjà une sensibilité qui fait qu'il y a déjà une curiosité et une ouverture. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui, enfin, sur le territoire du Diois, qui sont des thérapeutes, qui peuvent, de leur côté, parce qu'ils en ont la compétence de proposer, soit de prescrire ces produits, ou en tout cas, à travers les stages que je peux proposer, en avoir une première approche, qui ensuite peuvent, évidemment, approfondir une question avec des formations, on va dire, bien plus spécifique que ce que moi je peux apporter.
Ce qu'il en est des abeilles de nos jours, c'est complètement l'hécatombe, même dans le Diwa n'est pas exempte de cette perte. Est-ce qu'il y a une économie du miel et de l'abeille à développer pour pouvoir aborder cette apithérapie? Ou alors, est-ce qu'actuellement, il y a suffisamment de ruches pour contenter cette technique?
Disons que la question économique est évidemment le nerf de la guerre. Et que là, actuellement, on se trouve dans une situation où l'effondrement des populations d'insectes fait que ce n'est pas... Le problème ne se porte pas uniquement sur l'abeille, mais sur l'ensemble des populations animales et végétales que ça apporte. Et donc, d'un point de vue économique, évidemment, comme il y a des liens intrinsèques entre des millions, voire des milliards éléments vivants, et qu'on en est arrivé à un tel point d'affaiblissement, c'est-à-dire par l'urbanisation, par nos vies urbaines, parce qu'on incrimine énormément les agriculteurs en général, mais il faut voir aussi de quelle manière... aujourd'hui, nous sommes des très gros utilisateurs de polluants et qu'il est difficile aujourd'hui de ne pas en faire l'utilisation, mais que les agriculteurs sont un des problèmes parmi beaucoup, et la responsabilité de tout un chacun doit être pointée là-dessus, mais qui fait que, effectivement, on pourrait, enfin moi c'est ma recherche et c'est un peu mon angle, moi je considère que les abeilles, c'est ma façon de, comme une prise que j'ai avec le monde vivant, qui m'ouvre sur une multitude de choses, et que ça rentre dans des éléments, enfin, qui s'appellent la réparation, voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de réparer les écosystèmes, on parle de réparer les liens que les humains auraient perdus avec les éléments vivants. Et effectivement, l'abeille peut être une porte d'entrée qui permet de trouver des moyens de réparer, et les liens et les écosystèmes, etc. Dans le Diwa, effectivement, on est dans une difficulté, comme partout, avec une difficulté à maintenir les populations d'abeilles d'un point de vue artificiel. Donc, les apiculteurs sont là pour maintenir les populations d'abeilles artificiellement. Parce que le changement climatique fait qu'il y a une difficulté, un manque d'équilibre ou de continuité dans les processus naturels qui fait qu'on est aujourd'hui beaucoup dans le trop, trop froid, trop chaud, trop humide, trop sec, avec des changements de température et des situations violentes qui fait que les végétaux n'arrivent pas à suivre ces ruptures continuelles de climat, on va dire, de météo, qui fait que les floraisons sont pas de très bonne qualité, qui fait que les pollens et les nectars ne sont pas tellement présents ou moins présents dans les fleurs. Et donc, il y a par effet comme ça de domino, la collecte de miel et de pollen pour les abeilles, même elles-mêmes, est diminuée.
Olivier, tu es membre aussi de l'association francophone d'apithérapie, l'AFA. C'est un assemblement de personnes donc qui pratiquent comme toi l'apithérapie. Mais est-ce que ce sont aussi des personnes qui sont apicultrices avant tout ?
Alors, je suis membre de l'AFA parce que j'ai fait les formations de l'AFA. Et les membres actifs de l'AFA sont d'abord, je crois, des médecins. Des chirurgiens, des vétérinaires, des infirmières, des scientifiques qui font des recherches scientifiques là-dessus. Et qu'il y a aussi une organisation mondiale d'apithérapie. Donc, tout ça fait qu'il y a une recherche, on va dire, très dynamique sur les questions des produits de la ruche et au niveau mondial. Et tout cela est très bien repéré par l'AFA, qu'ensuite, eux, ils font des formations que l'on peut faire. Mais dans les formations, effectivement, il y a surtout des apiculteurs qui recherchent des informations sur les produits qu'ils prélèvent plutôt. Et il y a quelques thérapeutes, naturopathes, infirmiers, il y a quelques personnes du monde médical qui viennent aussi faire ces formations.
Donc sur le premier stage qui aura lieu donc le samedi 15 février, il y aura une présentation des produits de la ruche intitulée comme ça. Et ça se passera où ?
Alors normalement, le premier stage le samedi 15 février, voilà, c'est l'après-midi de 14h à 17h. Ça se passera à l'atelier. Cette première proposition, donc il y a trois stages. Le premier, c'est je vais présenter les produits de la ruche. Comment ils sont fabriqués par les abeilles, comment on les collecte, leurs vertus et les effets principaux que l'on peut attendre de ces produits. Et il y a aussi une chose pour laquelle je fais ces stages, c'est comment choisir ces produits, où les choisir. Parce qu'actuellement, il y a... Bon, c'est un peu en vogue, hein, et tant mieux, l'utilisation de la propolis, il y a beaucoup de produits en pharmacie où il y a écrit, qui sont à base de propolis, sans qu'on sache vraiment et les dilutions et les provenances de propolis. Pareil pour la cire, il y a une vogue de faire soi-même ses savons, etc., ce qui est très bien, et ce que je fais moi-même, mais il faut faire attention aux provenances de la cire, etc. Donc tout ça va faire que je vais donner une information pour éclairer les gens, et pour leur donner des possibilités, des éléments de choix. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Puis après, il y aura deux autres stages qui seront un peu plus approfondis. Un stage qui sera le samedi 14 mars, pareil, 14h-17h, qui va porter vraiment là sur miel, propolis et air de la ruche. Donc là, on va voir, on va déguster des miels, on va faire un pansement au miel, voir la technique du pansement au miel, et voir aussi tous les effets de la propolis, qui est vraiment un produit qui a une grande portée, on va dire, thérapeutique. Et le 4 avril, on va porter notre attention sur le pollen, le venin, la gelée royale et la cire. Là aussi, ce sont quatre produits extrêmement forts, puissants, qui ont des effets thérapeutiques très, très intéressants sur différents domaines. Et voilà, j'essaierai de donner, enfin j'essaierai de faire en sorte que ces stages soient aussi pratiques avec des recettes de savon, d'onguents, de dentifrice. Je ne sais pas si on pourra les faire in situ. Je pense que ça sera l'objet ensuite d'autres stages où je proposerai des ateliers où on fera juste un savon avec du miel et de la cire et comment faire ça. Voilà, mais ça sera l'objet d'autres stages.
Ces trois ateliers donc se dérouleront au sein de l'atelier ?
Alors, je pense que les deux premiers seront au sein de l'atelier, puis peut-être le troisième se fera à la source. Voilà, donc... Je pense que le quatrième sera la source, mais il suffit de m'appeler, évidemment de réserver, pour que j'indiquerai le lieu, mais ça sera entre la source et... Quoi qu'il en soit, ce sera entre la source et l'atelier. Les stages sont payants, évidemment, c'est 35 euros les 3 heures. Par contre, je propose qu'il y ait un système d'échange. C'est-à-dire que si un ou une stagiaire veut venir et qu'elle n'a pas cette disposition financière, eh bien moi, je peux soit proposer un échange, soit la personne peut me proposer un échange, un troc, on va dire, tout simplement, pour participer au stage.
Pour le deuxième stage proposé le 14 mars, il y a le miel, le propolis et l'air de la ruche. Tu peux préciser ce qu'est l'air de la ruche ?
L'air de la ruche, c'est... alors ça vient, ça c'est très intéressant parce que ça vient d'une pratique paysanne. Alors là, ça a été repéré en Ukraine, mais bon, je pense qu'il y en a ailleurs dans ces pays-là, où effectivement, il y a des cabanes, dans lesquelles des petites cabanes, on rentre dans la cabane et on s'allonge sur un support et sous le support, le divan, enfin c'est pas un divan, mais sous ce support-là, il y a des ruches. Et évidemment, il n'y a pas de relation, les abeilles ne peuvent pas rentrer dans la cabane, elles sortent à l'extérieur de la paroi, à l'extérieur. Mais par contre, toute la cabane est embaumée par l'air de la ruche. Et donc, l'air de la ruche aurait des effets thérapeutiques sur toutes les personnes qui auraient des problèmes d'asthme, notamment. Et là, actuellement, il est en train de se développer. En France, il y a un centre du bien-être qui a mis à disposition des ruches avec un tuyau, un masque que l'on porte sur le nez. Et on respire l'air directement qui vient de la ruche et qui aurait des propriétés très bénéfiques pour notamment les asthmatiques. Ouais.
Pour le troisième stage, il est proposé aussi une présentation des pollens, gelée royale et cire, et le venin. Alors, comment arrives-tu à réceptionner le venin ?
Alors, voilà, le venin, alors déjà, le symbole du pharmacien, c'est le serpent. Et donc voilà, depuis très longtemps, on sait que les venins ont des effets thérapeutiques très forts. Simplement, c'est la dose qui fait le poison et pas la substance. Donc pareil pour la piqûre d'abeille, c'est une thérapie paradoxale puisque l'effet premier est très désagréable, mais par contre, l'effet secondaire a plein de vertus. Donc bon, moi, je ne vais pas, encore une fois, je ne prescris rien. Et je donne une information. Par contre, je vais donner l'information pour telle ou telle pathologie. Eh bien, il y a tel laboratoire qui fait cette recherche, tel hôpital qui fait cette recherche. Et vous pouvez aller vous tourner vers cet hôpital, ces scientifiques qui font ces recherches. Moi, je ne vais rien prescrire. D'accord ? Donc, moi, je sais que pour moi-même, me faire piquer... par des abeilles, ça n'a aucun effet néfaste. Au contraire, j'en ressens maintenant très peu la douleur et par contre très bien les effets thérapeutiques qui y sont associés.
On signera quand même aussi des complications dues aux allergies. Hein. Peut-être certaines personnes
pourraient être allergiques. Oui, alors après la question, évidemment que la question de l'allergie sera abordée. Mais d'abord pour dire que ce n'est pas parce que... Alors, se faire piquer, ça dépend où. Se faire piquer à la tête, en général, si on approche et qu'on ne le sait pas, qu'on approche d'une ruche, et quand une abeille attaque, et elle n'attaque que dans la situation où on va sur la ruche, ailleurs, jamais de la vie une abeille n'attaque. On confond souvent abeille et guêpe, et c'est rare qu'une guêpe attaque. Bref, l'abeille, si on va, si on s'approche d'un rucher qu'on ne le sait pas, une abeille peut attaquer. En général, elle attaque à la tête. Donc ça, c'est très désagréable de se faire piquer à la tête. Et c'est là l'endroit où ça peut être dangereux. Mais en général, si on est piqué sur un membre inférieur, ce n'est pas parce que l'on gonfle que l'on va mourir dans d'atroces souffrances. Si l'on gonfle, c'est simplement une réaction et que le corps réagit. Mais le gonflement, peut être désagréable, ça va gratter, ça va durer un ou deux jours. Dans ce cas-là, on va chez son pharmacien, on prend une pommade et en général, tout rentre dans l'ordre.
Alors, tu abordes le côté pratique, hein, tu en as déjà parlé sur les deux derniers stages. Ça consistera à ce que les personnes qui viennent donc repartiront avec une petite production produite pendant l'émission,
non,
le stage.
Non, pas ce coup-là, parce que ça va demander les lieux ne le permettent pas. Hein. Faire un savon, on pourrait en faire un, mais je ne peux pas ni le faire à l'atelier ni à la source. Mais par contre, donner des recettes et aussi quelques trucs pour réussir et comment choisir les produits aussi, où les choisir, comment les choisir et donner des recettes, donc avoir quelque chose de pratique, mais on va pas les faire. Je prévois des stages où on fera, mais ça sera l'objet du stage directement, de faire un savon, de faire une crème, de faire...
Actuellement, dans le Diwa, est-ce qu'il existe une ramification ou du moins un réseau d'apiculteurs qui communiquent entre eux ou qui s'échangent des informations ou des observations?
C'est ce qui nous manque. Hein. Moi, à ma petite échelle, j'essaye. En tout cas, moi, je suis en relation. Je crois que d'un point de vue personnel, on est en interrelation, mais on n'est pas organisé. Par contre, il y a des apiculteurs qui font des produits intéressants que je vais conseiller et que j'ai testé, parce que tout ce que je vais conseiller en disant vous pouvez aller chez lui pour acheter des... Alors moi, j'ai rien à vendre aussi, hein, à la fin du stage, je sors pas ma petite boutique gelée royale et pollen et miel. Je vais plutôt conseiller des collègues pour, en disant, tiens, vous pouvez trouver du pollen là, vous pouvez trouver de la gelée royale là, etc. Donc moi, je fais un gros travail, au contraire, c'est pour ça que les stages sont payants, je fais un gros travail de collecte et de mise en forme de l'information. Et après, je vais faire en sorte que les gens repartent avec tout un tas d'adresses et d'éléments qui leur permettent eux-mêmes après de pouvoir évaluer de quelle manière ils vont pouvoir procéder.
Olivier de Sébipus, par rapport justement aux apiculteurs qu'on peut trouver dans le Diwa, est-ce que certains arrivent à valoriser leur exploitation et comment ?
Des professionnels, il n'y en a pas énormément hein, dans le Diwa. Il n'y en a que quelques-uns.
Justement, on peut peut-être écarter le côté professionnel, mais plus comme un passe-temps ou une passion. Est-ce qu'il existe aussi des personnes qui souhaitent une ruche chez eux, chez elles, et de manière à avoir une petite production personnelle? Ça revient, ça?
Oui. Alors, ça vient et ça vient. Alors, c'est intéressant parce que ça vient un peu avec différentes motivations. Et donc, chaque apiculteur qui s'empare d'une ruche, de quelques ruches, démarre avec une motivation qui lui est personnelle, qui lui est propre. Et ça, c'est la grande, on va dire, c'est la grande qualité de l'apiculture. Et un peu aussi son travers, c'est que les apiculteurs sont des gens qui sont assez individualistes, parce que la pratique fait qu'on veut pratiquer l'apiculture d'une certaine manière et pas d'une autre. Et qu'elle ouvre tellement de champs de pratique, l'apiculture fait que des fois on est dans une pratique très personnelle et on a du mal après à partager entre pratiques. Mais dans le Diwa, oui, il y a des, évidemment des apiculteurs, on va dire amateurs, bien sûr. avec des aventures plus ou moins heureuses. Moi, j'en connais que quelques-uns. Évidemment, ils sont très nombreux, donc je ne les connais évidemment pas tous. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont une pratique relativement stable de leur apiculture, avec une production très intéressante, qui peut-être même est un deuxième revenu, ou un troisième revenu en tout cas. Et puis il y a des gens qui y vont avec des expériences plus difficiles, plus compliquées, parce que effectivement, malheureusement, l'apiculture de nos arrière-grands-parents, eh ben, on ne peut plus la faire. Malheureusement, il est très difficile d'avoir une ruche au fond de du jardin. On aimerait bien ce que ça existe. Mais là, nous sommes arrivés à une situation où les écosystèmes sont tellement appauvris, le changement climatique déstabilise tout ça et les polluants sont trop présents. Pour que tout ça, ce sont des multifacteurs, on va dire. Pour moi, ce sont vraiment les trois facteurs clés qui font qu'actuellement, les insectes pollinisateurs ont de très grandes difficultés à survivre.
Est-ce qu'à ta connaissance, les ondes téléphoniques ont une incidence aussi sur le comportement des abeilles ? Est-ce que tu as eu connaissance d'articles ou d'échanges sur ce domaine ?
Alors ça, c'est un domaine... je ne suis pas très fort là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, je suis très convaincu qu'il y a une incidence. Mais je n'ai pas fait de recherche vraiment spécifique sur ce domaine-là. Et en tout cas, l'arrivée de la 5G est pour moi très néfaste, et pour les hommes et pour les... Enfin, n'a aucun intérêt. Bon, dans le Diwa, vu qu'on a en plus la fibre qui vient, donc je ne vois pas l'intérêt de mettre la 5G. Ça, c'est quelque chose... c'est un double emploi qui est complètement inutile. Et effectivement, on ferait bien de ne pas aller dans cette voie-là, en tout cas, parce que je crois que ça... Enfin, là où la 5G est déjà installée, comme en Italie, etc., il a déjà été répertorié des cas de personnes qui étaient dérangées très fortement. Et évidemment que les animaux et végétaux vont être dérangés, ça me paraît tellement évident.
Pour ça, il suffit de vouloir prendre en photo un animal avec son appareil téléphonique, par exemple, ou un appareil photo en mode automatique, et le chien ou l'animal sera perturbé.
Là aussi, on en est arrivé à un point où la captation commerciale d'une technoscience fait tellement l'impasse sur tout le caractère sanitaire et de nos corps et de l'environnement, fait que il va falloir arbitrer. Et je crois qu'on en est arrivé à une question d'arbitrage, c'est-à-dire que avant d'être complètement soumis à la technoscience et notamment à cette 5G, il est vraiment encore temps de ne pas s'approprier cette technique, parce qu'on n'en a pas besoin. Jusque-là, l'économie tourne très bien sans. La 4G, pour l'instant, fonctionne. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas dans ma vie courante. Mais enfin, en gros, la 4G fonctionne. On recouvre déjà des problèmes avec cette 4G. On ne va pas en plus s'en faire. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un arbitrage, et que l'arbitrage va se faire de deux façons, au tribunal, donc de façon juridique, et d'un point de vue politique, c'est-à-dire que ce sera les élus et nous-mêmes, citoyens, qui allons nous emparer de ces questions. Mais voilà.
Est-ce que cela fait partie des préoccupations justement de l'association francophone d'apithérapie, ces dégradations dues à la téléphonie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des scientifiques qui se penchent sur cet aspect-là ?
L'apithérapie travaille sur la connaissance et la meilleure connaissance des produits de la ruche.
Ça, je comprends bien, hein, mais le miel étant un produit et tout ce qui en découle de la ruche, mais il est important aussi pour un producteur de connaître aussi la santé de son outil, c'est ça que je veux dire. Et est-ce qu'il y a une considération des nocivités sur la ruche en général qui est prise en compte et qui est débattue?
Alors là, je vais plutôt me référer pas tellement à l'AFA, parce que je ne suis pas certain que ça soit vraiment le dispositif. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas entendu de... on a parlé de beaucoup de choses, mais pardon, pas vraiment de cela. Mais je vais plutôt faire référence à... Je suis abonné à 3 revues d'apiculture, donc tous les mois, je reçois les 3 revues. Je n'ai pas effectivement lu énormément d'articles sur ce sujet-là. Effectivement, peut-être que c'est un élément qui n'est pas assez pris en compte. Mais actuellement, les apiculteurs sont tellement sur 50 fronts à la fois, c'est-à-dire les polluants, le varroa, ça c'est un problème vraiment d'apiculteur. Bon, le frelon asiatique, on en fait grand bruit et vraiment, voilà. Le changement climatique fait qu'il y a tellement de fronts que la question de des ondes, j'ai l'impression, est un petit peu passée à la trappe actuellement, mais effectivement, c'est dommage parce que... mais moi, personnellement, la question des ondes, comment dire, ça, comme tous les polluants, ça nous concerne. C'est nos corps qui sont vraiment concernés. Donc, on pourrait toujours prendre comme, voilà, comme référence les abeilles ou, je sais pas, les animaux qui meurent à cause des ondes. Mais pourquoi pas, ça peut être un argument de plus. Mais il me semble que déjà, les arguments de notre propre... de la qualité sanitaire de notre environnement, c'est déjà des arguments assez suffisants pour pouvoir arbitrer, légiférer sur ces questions et écarter un certain nombre de choses, comme on l'a fait avec l'amiante. Hein ? On l'a très bien fait avec l'amiante. Hein. Il y a plein de choses qui nous ont été utilisées, mal utilisées. Bon, peut-être que les gens n'étaient pas bien informés sur le moment. Mais là, c'est bon, on est informés. Donc, on sait qu'il y a des milliers de polluants qui sont dans l'environnement, qui sont extrêmement nocifs, qu'il faut absolument arrêter leur utilisation, dont on a complètement... On sait comment faire sans, et on fera mieux sans. Et notamment, c'est les polluants qui sont nuisibles. Sur cette question-là. Moi, c'est comme ça que je les traite. Ce n'est pas les petits insectes qui sont nuisibles, c'est les polluants qui sont nuisibles. Et pareil pour la 4G et la 5G.
Le réseau 5G est un réseau très récent. Est-ce qu'il existe déjà en application dans certains pays?
Non, non, non. Oui, alors il est actuellement... il a déjà été mis en application, je crois, en Espagne et en Italie.
Et alors, justement, niveau de ces pays, est-ce qu'il y a eu des observations faites la faune et
alors,
la nature?
Je ne sais pas sur la faune, mais sur les gens, oui. Il y a déjà des organisations, des associations qui sont créées dans les villages ou dans les villes, sur les points où on a mis des émetteurs 5G et on a très bien observé où les gens avaient mal à la tête, étaient mal en point, etc. D'autant que les ondes sont beaucoup plus puissantes, c'est toujours la même chose. Donc là, on est en train d'élever les niveaux de puissance de ces ondes et comment sur quel motif on le fait. Là, pour l'instant, c'est pour avoir un frigidaire connecté et une bagnole qui roule toute seule. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, c'est pas à peine de En fait, c'est maintenant qu'il faut les combattre, ces choses-là, parce qu'ils n'existent pas et on n'a pas besoin de tout ça. Et il y a tout simplement à me contacter pour avoir plus d'informations et je donnerai toutes les informations et je répondrai à toutes les questions.
Je vois un numéro de téléphone aussi, on peut le
donner. Oui, voilà, c'est le 06 86 16 93 92.
Olivier de Sépibus, je vous remercie donc et je vous souhaite une bonne soirée.
Eh bien, merci pour l'invitation.
Au revoir.